presque juif. Un podcast d'Académ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder.
Aujourd'hui, nous sommes reçus par Eri De Luca.
Je m'appelle Eri De Luca et ma définition de moi-même est celle de lecteur, parce que je suis beaucoup lecteur. Et lecteur dans plusieurs langues, donc je suis lecteur. Après, ici, je suis appelé aussi comme en tant qu'écrivain. Mais écrivain, c'est mon activité plus petite dans la journée.
Bonjour Eri De Luca.
Bonjour Ruben.
Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel milieu vous avez grandi?
Un milieu napolitain. Mes parents étaient napolitains. Je suis grandi dans la ville de Naples, dans le vacarme de la ville de Naples, et dans la densité plus haute d'Europe. Nous étions très nombreux, l'un à côté de l'autre. Donc je suis grandi dans un endroit très bruyant. Et c'est pour ça que je me suis protégé par cet endroit avec les livres de mon père. C'était comme si je faisais une petite grotte pour moi dans laquelle je pouvais me réparer de la pression acoustique physique de la ville de Naples.
Votre père lisait beaucoup déjà?
Mon père était... Ma mère aussi, mais mon père... Tous les fins de semaine, il venait à la maison avec un petit paquet de livres comme ça et il les lisait pendant la semaine.
Vos parents étaient catholiques, je suppose? À Naples, tout le monde est catholique, non?
Si, mais non. Ma mère était catholique par tradition, mais ça, il n'allait jamais à l'église. À Noël, c'était une fête complètement laïque, il n'avait pas l'église. Non. Mon père était athée, socialiste, et donc il... Il m'a fait baptiser parce que c'était comme ça, que c'était on ne parlait pas de...
On ne parlait pas de religion.
On ne parlait pas de religion à la maison, non.
Vous avez été baptisé quand même, et la suite aussi, confirmation
Si, j'ai pris jusqu'à la première communion, comme on dit, la première communion, et après j'ai quitté.
Est-ce qu'il y avait des juifs à Naples?
Très peu, mais dans... Mais dans ma classe, il y avait un qui s'appelait Aldo Senigallia, qui était le meilleur dans les premières classes de la... Et après, il s'était perdu.
Vous l'avez perdu de vue?
Si.
Vous étiez ami avec ce...
Non.
Cet enfant?
Non, non, je ne suis resté ami au camp des élèves. Moi, je n'étais pas social.
Vous n'aviez pas d'amis?
Non.
Donc, c'est la première fois dans votre vie que vous avez rencontré un juif, c'était ce Aldo.
Aldo Senigallia, qui était là. Et qui a eu la malchance, je me souviens, qu'il a perdu son père quand il était encore à l'âge de 8-9 ans. Et je me souviens que c'était le premier qui avait la bande, la bande noire sur le bras pour marquer l'état de orphelinat.
Ses parents avaient été déportés ?
Non. Et son père était mort
par accident.
Par accident, pendant que nous étions à l'école.
On parlait des Juifs chez vous, à la maison, ou à Naples, dans votre enfance ?
Non, parce que là, c'était une petite minorité, que j'ai su après que c'était une petite minorité. Donc, non. Mais l'histoire, oui. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, oui. Oui, on parlait beaucoup de ça, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était quelqu'un qui... C'était comme... désolé de n'avoir rien compris de ce qui se passait autour de lui. Il était allé à la guerre, parti soldat avec les chasseurs alpins dans la Grèce, l'Albanie, comme ça. Hein. Il était revenu à la fin de la... au moment de l'armistice. Il s'était dérobé
l'uniforme.
De l'uniforme. Il s'était mis à faire... À Naples, il s'est mis à faire à faire sa vie, insomma, à récupérer ce qu'il avait perdu, des années de guerre qu'il avait perdu, commencé à se débrouiller. Il est toujours, c'est toujours le regret de n'avoir rien fait. C'est pour ça qu'il remplissait des livres sur la Deuxième Guerre mondiale.
Et y compris sur la Shoah, c'est quelque chose dont on parlait chez vous ?
Si.
Donc vous avez pris connaissance de la Shoah très tôt ?
Oui, parce que c'était une des choses qui s'ajoutait à la haine envers les Allemands. C'était une accusation supplémentaire.
La destruction des Juifs d'Europe.
La destruction des Juifs d'Europe, que c'est le titre du livre de Hilberg.
Oui, que vous avez lu ?
Si.
Mais vos parents n'avaient pas d'amis juifs, par exemple, à Naples ?
Non, mon père se souvenait d'avoir une fiancée juive à Roma, qui s'appelait Ascarelli, mais je ne me souviens plus de son prénom. Mmh. Mais après, il a rencontré ma mère, et alors tout a changé.
Quand est-ce que vous avez commencé à lire la Torah ?
Je l'ai lu. J'ai lu l'Ancien Testament, comme on dit en italien, dans la Bible. En italien, le moment où j'étais en train de partir pour l'Afrique. C'était début des années 80. J'avais fait le maçon ici à Paris avant. Et puis je suis allé en Italie et je suis allé dans un endroit où envoyer des bénévoles en Afrique gratuitement. Et donc je devais aller en Tanzanie. Et comme ça, je me suis trouvé là, dans cet endroit où j'étudiais mécanicien des moulins à vent qui servaient pour extraire de l'eau des puits. Et j'apprenais le kiswahili, que c'est la langue de l'endroit. Et je lisais, il y avait seulement ce livre-là, Bible. Je commençais à la lire par vis de lecteur.
En italien ?
En italien. Et alors là, j'ai compris que ce n'était pas de la littérature, qu'on ne pouvait pas être lecteur.
Pourquoi ?
De ce livre.
Ça veut dire
quoi ? Parce que je suis un lecteur qui se fait charmer par les histoires, qui s'identifie avec un personnage ou trouve que dans l'histoire il y a quelque chose qui parle de moi. Donc ça, pour moi, c'est la littérature. Et là, il n'y avait rien de ça. Là, c'était une espèce de verbal d'une divinité qui avait décidé de s'adresser à des écouteurs et qui avait décidé de manifester sa divinité avec le discours, la parole, les mots. Ça, c'était intéressant pour moi. Le fait qu'il y avait une divinité et sa manifestation physique était le dire. Et après, j'ai pu contrôler que le verbe dire est le verbe plus associé au sujet divinité dans toute le Tanakh. Le dire, c'est la manifestation physique plus intense de la divinité. Alors ça m'intéressait comme lecteur. Pour moi, c'était intéressant cette divinité qui avait décidé de se manifester avec la parole. Et avec la parole qui ne servait seulement à s'adresser à des personnes. Servait directement à faire de la création. Hop là, non, comme un magicien qui avait comme truc la parole.
Abracadabra.
Il parlait et les choses se produisaient. Il disait soit la lumière, il y a or, et voilà, sortait la lumière. Mais c'était un truc nécessaire. Il avait besoin, cette divinité avait besoin de dire pour réaliser. Donc, avec cet outil qui était capable de faire advenir les choses directement. En plus, il y a ce mot en hébreu qui existe, peut exister seulement dans cette histoire, qui est davar, que soit parole, que chose accomplie immédiatement. Cette synthèse, cette unité.
Entre les mots et les choses.
Entre les mots et les choses, ne peut advenir, ne peut être que là.
Mais ça, ça vous a interpellé.
Si. Pour moi, que je suis lecteur et aussi quelqu'un qui écrit des histoires, ah, c'était le sommet de l'efficacité du mot.
Et alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à lire ce texte en hébreu?
Parce que je voulais savoir si c'était fait comment, cette langue. C'était une curiosité mécanique. J'avais, à l'école, j'avais étudié au lycée, j'avais étudié le grec, le latin. Donc, j'avais déjà des outils pour m'introduire furtivement, sans des maîtres dans les langues des autres. Et donc, j'ai acheté une grammaire et je suis parti en Afrique avec une grammaire d'ancien hébreu.
Et vous avez appris tout seul l'hébreu?
Oui.
Mais il faut avoir un maître qui vous dit comment on prononce, non?
Ah, bon, si. Après, j'ai corrigé mon invention de l'hébreu. Je l'ai corrigé en écoutant. Quand j'ai étudié et quand j'ai commencé à comprendre quelque chose, ça n'avait aucune importance. Le son de la parole. Le son,
la prononciation.
La prononciation n'avait aucune importance.
Mais vous avez toujours étudié seul le texte?
Toujours seul. Toutes les langues que j'ai, sauf le latin et le grec, toutes les autres langues, je les étudie seules.
Donc on peut apprendre une langue seule, c'est étonnant,
si,
quand même.
Mais non. Ouais. Mais non. Non, c'est pas étonnant. Si vous savez, il y avait continuellement des musiciens, non, qui savent jouer 1, 2, 3, 4, 5 instruments. Le moment qu'on a appris à jouer 1, 2 instruments, on peut apprendre à jouer aussi les autres.
Il faut quand même apprendre le premier.
Le premier et le deuxième, donc le latin et le grec, je l'ai dû apprendre au lycée. Donc j'avais une capacité d'effraction. Je pouvais forcer l'ouverture des langues des autres avec le latin et le grec.
Quelle Bible vous utilisez pour lire le Tanakh?
La Bible Stuttgardensia. Ça s'appelle comme ça. C'était le texte avec la massorette en bas.
Avec toutes les versions, avec toutes les variations.
Avec les variations en bas.
Et vous utilisez aussi les commentateurs. Tout à l'heure, on discutait, vous m'avez cité Rashi.
Oui, ouais. Rashi est obligatoire. Non, mais j'ai lu beaucoup de commentateurs, oui. J'ai lu beaucoup de Talmud, mais pour le Talmud, il faut avoir un maître. Il faut avoir un maître et il faut être avec des autres élèves.
Et c'est ce que vous avez fait?
Eh non. Non, donc je ne suis pas... Je peux faire des citations comme ça, mais sans l'étude qu'est l'échange. Il me servait les commentaires pour les traductions, parce que j'ai commencé à faire des traductions. Parce que je me suis aperçu que ce format originel de l'ancien hébreu était complètement abîmé dans les traductions. Et ça me semblait une chose absurde, que le texte principal, le texte sacré, était un texte qui pouvait être interprété ou modifié selon les goûts et les époques.
Et en perdant l'intensité du mot originel?
En perdant énormément l'intensité. Non, mon effort de traducteur a été celui de prendre un seul mot hébraïque et faire le correspondre à un seul mot en italien, non? Alors, pour faire ça, comment pouvais-je faire? Je devais chercher le mot hébreu, en hébreu, dans toutes les occurrences du Tanakh. À travers cette étude biographique du mot, je pouvais extraire le correspondant en italien.
Donc vous traduisez toujours un même mot exactement de la même manière.
Oui, ça c'est pas pour moi, c'est le résultat final.
Dans toutes ces occurrences.
Colle, c'est voix pour moi. On ne peut pas l'employer une fois comme son, une fois comme tonnerre, une fois comme rugi dans Lyon. Non, colle, c'est la voix. Mais la voix du chauffard, c'est une voix, c'est un son. Oui. Non, c'est une voix. Si tu ne la comprends comme voix, ça, tant pis pour toi. Mais c'est une voix. J'étais fâché contre les traductions. C'est ça pourquoi je me suis mis à traduire certains livres. Je peux faire un exemple. Oui. Non. Il y a le psaume de David qui dit « Bayat kaf kedrushi, ruhi. Dans ta main, je suis en train de confier mon vent, ruhi. » Et les traductions disent « En ta main, je suis en train de confier mon âme, mon esprit. » Mais là, c'est « ruach ». Et pourquoi David emploie ce mot « ruach » ? Il connaît les autres possibilités de mon nefesh, neshama, il connaît l'ancien hébreu. Pourquoi il dit « ruach » ? Parce que c'est le vent, il est en train de mourir, non ? Donc il est en train de confier son dernier vent. Parce que ce « ruach » est celui qui est pénétré dans ses poumons au moment de sa naissance. Parce que le nez naît avec les poumons fermés. Mm-hmm. Ce n'est pas lui qui commence la respiration. C'est un vent qui, dans l'extérieur, qui pénètre, qui force la fermeture des poumons. Et là, ce vent fait venir la respiration, le premier souffle. Et c'est ce vent qu'il est en train de confier dans la main qui vient le recueillir. Et que peut-être ça a été la main qui l'a jeté là-dedans, non ?
Il expire.
La main est le vent. Alors, si tu traduis souffle, esprit, âme, tout est perdu, le ruach de David. Tu as perdu cette idée poétique parfaite que je suis forcé à expliquer, mais qui, pour un lecteur en hébreu, c'est évident, c'est bon.
Je voulais vous poser une question sur les auteurs ou l'auteur de la Torah. Dans le Noyau d'Olive, ce recueil de commentaires que vous faites du Tanakh, vous dites « Je vois les mots de l'Ancien Testament impossibles à réduire à l'œuvre de plusieurs auteurs. » Pour vous, il y a un auteur du Tanakh ?
Non, il n'y a pas un auteur, il y a des rédacteurs. Il y a des rédacteurs d'une histoire très ancienne qui d'abord était orale et qui après s'est matérialisée dans le format définitif. Et pourquoi s'est matérialisée dans le format définitif ? On a eu ce besoin. Parce que l'oralité, qui prétend avoir exploité une grande mémoire collective, passant d'une génération à l'autre, il y avait la perception qu'il manquait quelque chose, ou que quelque chose s'abîmait. Alors, ils ont commencé à écrire un texte qui était tout seulement consonnes consécutives, une espèce de sténographie pour garder. Et après, ils se sont aperçus que peut-être ce n'était pas suffisant, ça, parce que les générations commençaient à ne pas savoir lire cette sténographie consécutive. Alors, ils commençaient à couper les mots. Et enfin, ils ont ajouté les lettres, les voyelles. Non, c'est toute une réduction à l'écriture. Mais l'immensité orale est d'une origine qu'on ne peut pas remonter à cette origine.
Quand je lis vos livres, il y a quelque chose que je trouve ressemblant au récit de la Torah. C'est que vous écrivez souvent plusieurs versions d'une même histoire. Dans la Torah aussi, on a des répétitions. Tout le Sefer Devarim, tout le Deutéronome, c'est une grande répétition. Pourquoi la Torah, pourquoi elle se répète autant ?
Parce que les écouteurs ne sont pas convaincus. Il faut répéter. Il faut faire beaucoup de répétitions. Toute l'histoire de la, des chauffe-teams, des livres de, des livres des rois, ce sont des histoires où ils oublient continuellement. Ils oublient continuellement, ils sont forcés à se souvenir sous l'urgence, sous l'émergence, sous l'oppression des choses, à revenir sur ce qu'il avait oublié. Donc c'est comme ça. C'est...
Donc on répète pour faire rentrer la parole dans l'oreille.
Et pour renouveler le bérite avec les générations, le pacte, l'alliance avec les générations.
Alors vous venez de prononcer un mot important là, le Brit, le pacte. Vous n'avez jamais pensé à rejoindre ce pacte ?
Non, j'ai fait une chose de curiosité avec ces dernières retrouvailles scientifiques. Il y avait la possibilité de reconnaître la généalogie dans les DNA.
Dans l'ADN.
Et donc j'ai fait cette recherche. Il n'y a aucune trace.
De juifs.
De juifs. Aucune trace. Donc moi, c'était une curiosité pour moi. Peut-être qu'il y a quelque chose. J'ai essayé aussi dans la généalogie de ma grand-mère, l'américaine, s'il y avait quelque chose. Rien. Donc rien ne me justifie. Je n'ai pas une justification physique ou biologique.
Mais vous avez déjà pensé à rejoindre ce peuple, ce Brit ?
Non.
Pourquoi ?
Non, parce que je suis napolitain. Ça veut dire, je m'identifie avec ce vers qui avait écrit Borges, qui disait « Qui ne me dira si tu n'es pas dans le labyrinthe de mes sangs, Israël ?»
Dans le labyrinthe de quoi ?
De mes sangs.
De mes sangs.
De mes sangs. À différence de Borges, j'ai pu exclure la possibilité. Dans le labyrinthe de Messang, il n'y a pas de source juive.
Mais on ne peut pas être napolitain juif ? Parce que vous dites, je suis déjà napolitain.
Napolitain, c'est cette bâtardise concentrée de la Méditerranée. Tous les peuples sont passés, ont dominé Naples. Depuis les Grecs qui l'ont fondée, ont fondé la ville de Naples, parce que ce n'était pas une ville fondée par les Napolitains, mais par des Grecs, et jusqu'aux Américains. Tous les peuples sont passés pour mêler leur sang en autre. Quand sont arrivés les Français, on a fait une compétition entre le Français et les Napolitains, à qui avait introduit la syphilis. Alors, le Français l'appelait mal napolitain. Et les Napolitains l'appellent mal française.
Dans la Torah, il y a tous ces récits. Il y a aussi beaucoup de lois, des règles. Est-ce qu'elles vous intéressent aussi? Quand vous étudiez le Tanakh, est-ce que ça vous intéresse autant, toutes les lois, Kashrout, Chahatnez?
M'intéresse le lire. Oui, je trouve intéressant tout ce que je...
Ça vous nourrit autant que les récits?
Je lis le récit. Mais je suis aussi passionné de quand il y a tous les noms.
Les généalogies,
ah, ça, ces noms inventés avec des formules comme des synthèses de prophéties. Si, mais je lis et relis régulièrement tous les jours.
Vous lisez quoi en ce moment ?
Jérémie, qui annonce la chute de Jérusalem. Si.
Et vous lisez tous les jours un chapitre, c'est ça ?
Oui, un chapitre par jour.
Et vous dites dans le Noyau d'Olive, qui est un autre de vos recueils, que c'est un peu ce qui donne la coloration de vos journées. Vous commencez votre journée comme ça.
Si. Je commence comme ça, avec un peu de... Parce que j'ai besoin, parce que ma tête est complètement fermée quand je me lève. Je suis lucide, mais complètement fermé. Alors, l'ancien hébreu me fait comme la friction même avec l'aide de la ligne du vert de la ligne qui va au contraire, non, de ma lecture ordinaire. Donc ça produit une friction dans ma tête avec l'aide du café napolitain qui me permet de me réveiller. Quand je me lève, et je me lève très tôt le matin parce que j'ai terminé le sommeil, je commence à ouvrir la journée avec ce texte. Mais c'est une chose que j'ai appris quand je faisais l'ouvrier. Je faisais le métier d'ouvrier. Alors, dès que la journée d'ouvrier me vidait complètement de force. Et à la fin de la journée, je ne pouvais rien plus faire sinon manger et aller me coucher. Alors, j'avais décidé de faire mes lectures avant d'aller au travail. Et donc, je me levais une heure avant du normal pour sortir, pour lire. Et donc, cette lecture que je faisais et que je continuais à faire m'a fait le prodige de me faire lever errer tous les matins de ma vie ouvrière. Parce que j'avais ce rendez-vous avec cette ouverture de tête en cérébro. Et souvent, des lignes que j'avais lues le matin me retournaient dans la tête pendant la journée. Non?
Ça vous accompagne.
C'est pour ça que j'ai appelé des récits noyau d'olive. C'était comme un noyau d'olive qui mangeait l'olive, continue à rester dans la bouche longtemps. Et donc, il y avait des textes, des vers qui me... Il y avait le vers du travail des bâtisseurs du mur de Jérusalem dans le livre de Néhémie. Il y avait une chanson, une espèce de chanson qu'il disait en chœur, qui prononçait pendant le travail, parce qu'il avait aussi une tournure musicale qui m'aidait la respiration.
Donc vous étiez ouvrier et vous étiez en train de lire des textes qui parlent des ouvriers du temple.
C'était une coïncidence aussi, ouais. Mais quand ils étaient des bâtisseurs, et j'étais dans les bâtiments à l'époque, j'étais ouvrier de bâtiment, alors il y avait le chant des ouvriers qui bâtissaient le mur de Jérusalem. Donc je l'avais appris et c'était très efficace. Donc je comprenais pourquoi. C'était quelque chose de physique qui aidait la respiration.
Il y a quelque chose que vous répétez souvent dans les entretiens, c'est que vous n'êtes pas croyant.
Non.
Mais dans le dernier livre traduit en français, Les règles du Mikado, bon, alors c'est le personnage principal qui parle, mais c'est un homme qui a votre âge, qui escalade dans les Alpes, et qui dit se réveiller chaque matin en disant merci. C'est quelque chose que vous faites aussi, vous ?
Si.
Vous dites merci quand vous vous réveillez ?
Si. Je peux dire merci à mon corps qui s'est réveillé encore un jour. Parce qu'à mon âge, la perspective, non, le programme est arrivé à la fin de la journée.
Donc à chaque fois que vous vous réveillez,
je dis bonjour, merci.
C'est quelque chose qu'on fait dans la tradition juive aussi, modé ani.
Modé ani, le fanel. Voilà.
Vous connaissez ça ?
Oui. Peut-être que j'ai cette habitude à partir de là. Peut-être. Parce que je ne me souviens pas de quand j'ai commencé à me dire merci. Peut-être quand je suis... Après l'infarctus, peut-être que j'ai commencé à dire...
Parce que vous avez fait 3 infarctus de suite.
Ouais. Oui, j'ai eu une défaillance consécutive de la machine.
Il y a d'autres auteurs juifs qui vous inspirent, à part la Torah ?
Si.
Parce que vous avez traduit du yiddish beaucoup ?
J'ai traduit du yiddish.
Comment vous en êtes venu à apprendre le yiddish ?
Ah, ça c'est une autre histoire. Rien à voir avec l'Afrique. Non, c'est que dans des héros de mon adolescence, s'appelait Marek Edelman. C'était un des combattants du ghetto de Varsovie. Et alors, je suis qu'il y avait la célébration du cinquantenaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'était le 93. Et j'ai décidé d'y aller. Comme ça, je suis allé à Varsovie. Et Marek Edelman ne participait jamais aux célébrations. Aux célébrations officielles, avec les Polonais, tous les autres. Dans le ghetto qui avait été complètement rebâti après la totale destruction voulue par Himmler, dans une petite place du ghetto, pas loin de l'Umschlagplatz, il y avait Marek Edelman debout sur une chaise parce qu'il était petit et qui parlait en polonais à une foule, petite foule qui l'écoutait. Alors je l'ai reconnu parce que je savais qui il est. Et comme ça, j'ai retrouvé l'incarnation de ce que. La raison pour laquelle j'étais là. Après, je suis allé voir le musée, l'archive Ringelblum. Et là, je me suis désolé de voir des lettres hébraïques que je ne comprenais pas. Ça, je ne pouvais pas. C'était comme un insulte personnelle.
Un affront.
Un affront personnel. Mais comment que je ne peux pas lire ces lettres? Et alors, j'ai décidé que je devais apprendre le yiddish. Et je suis allé. J'ai acheté une grammaire anglaise de yiddish, très claire. Mais c'est la langue que j'ai pu lire dans la manière le plus vite. Le plus vite. Je connaissais aussi un peu d'allemand, donc allemand, et c'est passé vite. Et le premier livre que j'ai lu était « Die Familie Muschkat » d'Isaac Bechevesing. Et là, je me suis aperçu, j'avais aussi acheté la version italienne, non, qui était une traduction de l'anglais. Et j'ai aperçu que en yiddish, c'était presque le double. Parce que Zing avait accepté de réduire presque de la moitié en supprimant toutes les choses typiquement juives et ashkénazes du livre. Et là, ma découverte était, je l'ai aussi traduit, la découverte du dernier chapitre. Si vous le lisez en français, c'est le chapitre qui termine avec la mort et le Messie. Ça, c'est la vérité. Die reine Semes, der Teut ist der Messiah. Das ist der reine Remes. La mort est le Messia. Ça, c'est la pure vérité. Le dernier personnage du livre, que c'est un vieux docteur qui cherche des débris dans des bombardements des choses qu'il avait perdues. Il y a tout un autre chapitre où il y a on parle de la festivité des fêtes, il y avait Rosh Hashanah pendant l'arrivée des Allemands à Varsovie. Tout un récit de Rosh Hashanah dans des stiblach, dans des petits stiblach de Hasidim. Et à la fin, il y a cette fuite de Hasidim envers l'Est. Et le finale, pour Ayak, Mashiach vetkumen. Pour vous viendra le Messie. C'est complètement renversé le final du livre avec le final du chapitre qui manquait complètement, sont plus de 20 pages. Donc j'ai traduit en italien le dernier chapitre de Familie Muschkat. Ça.
Vous avez aussi traduit le chant du peuple juif assassiné.
Oui.
Pourquoi vous avez traduit ça?
Non, parce que c'était le sommet du format littéraire de la destruction. Il faut transformer la destruction en chant. C'est ça le travail de la littérature. Depuis l'époque de Homère, non? Quand commence l'Iliade commence, chante-moi, chante. C'était la destruction de la ville de Troie, tous les massacres autour. Chante. La littérature a cette tâche absurde de transformer en chant les destructions. Ça arrive, dans le cas de Katzenelson, c'est arrivé. Donc j'ai trouvé le chant de Katzenelson.
Vous parliez de Rosh Hashanah à l'instant. Vous avez déjà participé à une fête juive?
Oui, il y avait des amis Romain, qui m'a famille qui pour beaucoup d'années m'a invité à Pessah. Et c'était parce que je savais lire en hébreu et il ne savait pas. Alors je faisais moi les passages.
La Haggadah.
La Haggadah.
Est-ce que les Juifs parfois essayent de vous amener au judaïsme, de vous dire allez, rejoins-nous, convertis-toi?
Non. Ça c'est contraire au judaïsme. ce désir de faire des adoptions, non.
Du prosélytisme.
Ou des conversions. C'est contraire au judaïsme. Pour ça, je me dis, je suis napolitain, c'est tout.
Vous dites, vous êtes michutz la machane. Vous êtes en dehors du camp.
En dehors du camp. En dehors du camp.
C'est aussi une place.
Oui, je suis. Mais je suis. Il y avait dans la traduction, il y a eu des Égyptiens qui ont suivi, qui restaient dehors du campement. Et donc, je suis un de ces Égyptiens, un Égyptien napolitain, mais qui reste dans le désert, qui n'arrive pas dans la terre promise. Arrivé au fleuve, au Jourdain, je m'arrête. Je reste là.
Vous êtes déjà rendu dans une synagogue ?
Je n'entre pas dans les lieux de culte, parce que c'est la maison des autres. Et donc, je n'aime pas les visiteurs qui entrent dans les églises pour regarder les peintures, pendant que les gens sont là pour...
Les touristes, quoi.
Si, les visiteurs, je l'appelle les visiteurs. Donc, je suis pas, on va pas en visite dans les lieux de culte. Pour moi, c'est comme ça.
Donc, vous restez sur le seuil.
Mikoutz.
Mikoutz. Pourquoi est-ce que les Juifs suscitent autant de détestation, d'hostilité ? Pourquoi il y a autant de gens qui détestent les Juifs ?
Chacun a des prétextes pour faire. Donc, l'histoire a accumulé un catalogue de prétextes. Donc, maintenant, il y a Israël. Israël, c'est le prétexte majeur. Maintenant.
Mais fondamentalement, je veux dire, comment vous comprenez que ce peuple, il attire tellement de haine contre lui ? Qu'est-ce qu'il y a chez les Juifs qui fait qu'ils sont insupportables ?
Ils ont été persécutés comme minorité. Mais ils sont restés eux-mêmes. Il y avait un journaliste, je pense, un journaliste juif polonais qui disait « Nous ne sommes pas la minorité de quelqu'un d'autre, nous sommes la majorité de nous-mêmes. Ah, » c'est comme ça. La minorité qui garde ses traditions, sa langue, ses cultes, c'est toujours... mal toléré.
Il y a un mystère quand même avec le peuple juif, puisqu'il est persécuté et traverse l'histoire. À quoi ça tient cette pérennité des Juifs ? Pourquoi ils sont increvables ? C'est une question que vous vous posez parfois ?
Je pense que c'est exactement l'application de l'intention de la divinité après le déluge. Grandissez, multipliez-vous et allez recouvrir la face de la terre. Pas rester dans un seul endroit. Parce que le résultat d'être dans un seul endroit, c'était la tour de Babel. C'était tout cela. Et la dispersion était la fertilisation. Et donc, c'est le peuple juif qui a appliqué dans la manière la plus littérale cet ordre, parce que ce sont des impératifs. Le format est à l'impératif.
Donc c'est l'exil qui garantit en fait la survie.
La dispersion, l'exil d'où ?
Il y a un lieu pour le peuple juif, c'est la terre d'Israël.
Mais non, mais non. Marek Edelman n'était pas d'accord. Marek Edelman disait, nous sommes des juifs polonais, nous sommes, il faut rester ici. Ils étaient plutôt du Bund.
Vous pensez que les juifs ont perdu quelque chose en retournant à un endroit, en Eretz Israël?
Non.
Non?
Non, non.
Ils ne sont pas moins juifs, du coup?
Non, 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 non. Non, 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 non pour la première fois, une nation. Mais les nations sont semblables l'une aux autres. La différence entre les juifs et les autres peuples est moins évidente. Parce qu'Israël est un État comme les autres, avec tous les problèmes des États.
Les problèmes politiques, les problèmes politique, de pouvoir, de corruption.
De corruption, de nationalisme, de défense, de militaire, et un État.
Vous avez déjà été en Israël?
Souvent. Oui. J'étais invité souvent à la Book Fair, Jérusalem Book Fair.
La foire du livre.
La foire du livre de Jérusalem.
Vous aimez être en Israël?
Si. Ouais. J'ai aussi un curieux privilège. Un de mes livres qui s'appelle Monte di Dio est un livre de texte dans les écoles.
En Israël. Fait partie du programme scolaire?
Des programmes scolaires.
Ah, je ne savais pas.
Ouais. Ouais. Si. Quelqu'un était aussi fâché contre moi. Puis je dis, tu es responsable, j'étais forcé à t'apprendre à l'école. C'est pas ma faute.
Les élèves israéliens apprennent Monte di Dio.
Monte di Dio. Ah, ouais.
Vous faites partie du patrimoine national d'Israël, alors. Et quand vous êtes en Israël, vous parlez en hébreu avec les gens?
Non. Non, non.
Vous parlez pas ivrite?
Non, je. L'homme de Berivrite.
Sur le conflit israélo-palestinien, moi j'ai l'impression que vous vous prononcez très peu. Vous parlez peu de ça. Hein. C'est une retenue délibérée de votre part?
Oui, ils disent que je suis sioniste. Je ne considère pas une insulte le mot.
Qui dit ça?
Ah, en Italie.
Ah. Vous considérez comme sioniste?
Pour moi, ce n'est pas une insulte.
Mais pour moi non plus.
C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a un peuple qui s'est installé dans le lieu de leur histoire. Non, mais il n'y a pas trop à dire. Le seul espoir est que cette guerre finisse dans une manière plus définitive que les autres.
Encore une fois, vous êtes dans une position intéressante parce que vous avez été à l'extrême gauche. Je crois que vous êtes encore un homme de gauche, mais qui se dit sioniste. En France, c'est quelque chose qui est devenu assez rare. Hein.
Moi, j'ai changé complètement j'ai complètement quitté la cause palestinienne au moment des Olympiades, des Jeux Olympiques de Munich. Ouais.
1972.
Ouais.
Pour vous, là, c'était fini avec la cause palestinienne?
Pour moi, c'est personnellement. Pour moi, c'est fini quand même.
Pourquoi?
Parce que l'idée qu'il y avait des otages juifs à nouveau en Allemagne, tués parce qu'ils étaient juifs, c'était pour moi. C'était...
Pourtant, la lutte armée, c'est quelque chose avec lequel vous avez...
J'étais avec... La lutte armée de tous les mouvements révolutionnaires du monde à l'époque, du Vietnam au Chili, oui. Au Brésil. Oui. Et en Italie, c'était comme une espèce de réseau central. Parce que tous les réfugiés, tous les exilés venaient en Italie. Parce qu'il y avait le plus fort parti communiste d'Occident et la plus forte gauche révolutionnaire d'Occident. Donc nous étions avec les. Nous avons donné de l'aide. Mais avec l'OLP, non.
L'OLP.
L'OLP, non. Mais aussi, quand nous étions avec en contact avec toutes les forces révolutionnaires, l'OLP n'était pas en contact. Nous n'étions pas en contact avec l'OLP.
Avec Arafat?
Non.
Ça, c'était vos années révolutionnaires. Est-ce que le judaïsme, c'est un mouvement révolutionnaire? Est-ce qu'avec le Tanakh, les Juifs, ou le peuple qui a rédigé ce livre à l'époque, a opéré une révolution, a introduit une révolution dans le monde?
Évidemment, introduit le monothéisme, annulant tout le polythéisme. Et réussit comment à le faire? Avec une armée qui a imposé la nouveauté, ou avec une langue ultra cultivés comme le grec ou le latin qui pouvaient... Non, absolument rien de ça, avec rien de ces armes traditionnelles. Donc à travers cette écriture.
Vous avez rapidement évoqué la généalogie tout à l'heure qu'il y a dans la Bible. Vous n'avez pas eu d'enfant ?
Même pas de femme. Ouais. Je ne suis pas marié.
Pas marié.
Donc, je n'ai pas laissé des traces.
Mmh. Il y a vos livres.
Les livres ne sont pas des traces.
Et si vous aviez eu des enfants, vous pensez que vous leur auriez donné des noms bibliques ? Vous avez déjà réfléchi aux noms que vous auriez aimé donner à vos enfants ?
Non, jamais imaginé un enfant. Par un homme, imaginer un enfant, c'est d'abord imaginer une femme.
Vous avez eu des femmes ?
Oui. Et j'ai aussi, deux fois aussi, demandé un mariage.
Alors ?
Demandé, et ils ont dit non.
Pourquoi ?
Mais c'était pas contre le mariage, c'était contre le mariage avec moi. Parce qu'après, ils se sont mariés, ils ont eu des fils, comme ça. Mais comme ça, j'ai demandé des fois, je crois que c'est déjà assez, demander des fois, non ?
Vous êtes triste de ça ?
Non. Non.
Vous pensez que vous voulez être enterré à Naples ?
Non, je voudrais disparaître. Pas laisser trace.
Donc incinéré ?
Incinéré ou perdu dans la mer, ou dans la glace, ou dans les montagnes. Je voudrais disparaître.
Pourquoi ?
Pour n'avoir pas un endroit où quelqu'un doit
se recueillir.
Se recueillir, aller s'accrocher
à votre tombe,
un endroit comme ça. Je préfère disparaître, non, à la manière d'Élie.
Merci Eri De Luca.
Merci à vous.
Presque juif, une production Academ. Conception et présentation Ruben Honigman. Prise de son et montage, Isaac Payon.